Trois livres ouverts le jour de Rosh Hashanah. Chers amis, Hashem, Alechem, Tiahiu, Leorechem, Tovim, Shanim, Nehemim, Zanou, Hashem, Adonai, Ose, Shamaim, Baaretz. La Mishnah dans Rosh Hashanah, la page 16a, nous dit: à quatre périodes de l'année, le monde est jugé. Be'arba, Prakim, Aolam, Nidon. À Pessah, sur les céréales. À Shavuot, sur les fruits de l'arbre. À Rosh Hashanah, tous ceux qui viennent au monde défilent devant lui comme les agneaux du troupeau, que l'on fait passer un à un pour les recenser. Comme il est dit dans les psaumes, ils façonnent leur cœur ensemble, il comprend tous leurs agissements, il les juge le jour où il les a créés. Et à la fête de Sukkot, ils seront jugés sur l'eau. Ça, c'est le texte de la Mishnah. La Gemara recherche l'auteur de notre Mishnah et rapporte une baraïta où sont mentionnés quatre avis qui ne concordent pas avec cette Mishnah. Rabbi Meir dit, tous sont jugés à Rosh Hashanah, mais leur sentence est scellée à Yom Kippour. Rabbi Houda dit, tous sont jugés à Rosh Hashanah, et leurs sentences sont scellées, chacun en son temps. Les céréales à Pessah, les fruits de l'arbre à Shavuot, les pluies à Sukkot. Et l'homme, lui, est jugé à Rosh Hashanah et sa sentence est scellée à Yom Kippour. Rabbi Yossé dit, l'homme est jugé chaque jour. Comme dit le verset, tu l'inspectes chaque matin. Rabbi Nathan dit, l'homme est jugé à chaque instant. Indique ainsi que dit la suite de ce verset, à chaque instant tu l'examines. Rabbi dit que l'auteur de la Mishnah est internat de l'école de Rabbi Ishmael qui enseigne, à quatre moments, le monde est jugé, à Pessah sur la récolte, à Shavuot pour les fruits de l'arbre, à Sukkot pour l'eau, et l'homme est jugé à Rosh Hashanah. Et sa sentence est scellée à Yom Kippour. La Mishnah fait référence au début du jugement, quand elle dit « le monde est jugé à Rosh Hashanah », mais elle ne parle pas de la fin. Et ça correspond à ce que cette baraïta a dit, que le jugement est scellé à Yom Kippour. Plus loin, la Mishnah, la Gemara rapporte, plus loin à la page 16b, la Gemara rapporte l'enseignement de Rabbi Kruspedai, au nom de Rabbi Yohanan. Que dit-il? Il nous dit, trois livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Un pour les Rechaim complet, Rechaim Gemurim, les mécréants absolus. Un, celui des justes accomplis, Tzadikim Gemurim. Et un pour les Benonim, ceux qui sont intermédiaires, ni Tzadikim, ni Rechaim. Les justes accomplis sont inscrits et scellés immédiatement pour la vie. Les mécréants absolus sont inscrits et scellés immédiatement pour la mort. Ceux qui sont Benonim, intermédiaires, sont tenus en suspens de Rosh Hashanah à Yom Kippour. S'ils sont méritants, ils seront inscrits pour la vie. Et s'ils ne méritent pas, ils seront inscrits, Chas v'Shalom, pour la mort. Les Tosafot, dans leurs commentaires, disent que puisque la Gemara considère trois groupes, dont les intermédiaires, cela veut dire que les justes accomplis, dont il s'agit ici, sont ceux qui ont plus de mérite que de fautes. De même, les mécréants, les Rechaim Gmurim, sont ceux qui ont plus de fautes que de mérite. Il complète l'explication en soulevant le problème de la réalité. La réalité contredit l'affirmation selon laquelle les justes sont inscrits pour la vie et les méchants pour la mort. Il répond, parce que nous voyons de notre vivant que des Rechaim sont bien de situation et vivent longtemps, alors que des Tzadikim subissent des jugements, toutes sortes de problèmes, et parfois même meurent jeunes. Ils répondent à cela que les fautes commises par les justes sont considérées comme s'ils avaient brûlé toute la Torah, même une petite faute, et que les mérites des mécréants sont considérés comme s'ils avaient accompli toute la Torah, comme le dit la Gemara dans Kiddushin à la page 39b. C'est-à-dire que pour justifier la rigueur qui s'abat parfois sur les justes et la prospérité dont jouissent parfois les mécréants, nos maîtres, Rabotenu à Tosafot, disent que Dieu paye dans ce monde le mérite des mécréants pour qu'il ne leur reste rien dans le monde futur et fait expier les fautes des justes par leur souffrance dans ce monde pour que leur mérite soit entier dans l'autre monde. Ils ajoutent que notre Gemara ne parle que du jugement qui concerne le monde futur, mais pas de celui-ci. Ça, c'est l'avis de Tosafot. Le Ran pose la même question. Et il répond avec une variante. Il dit bien que la Gemara ne traite que du jugement qui concerne ce bas monde. La notion de juste ou de mécréant est relative au jugement qui nous concerne. Bien qu'un homme peut être injuste, peut être sadique, mais parce qu'il a fait une faute, on l'inscrit dans le livre de la mort. Il sera considéré alors comme un rachat. L'inverse est valable aussi pour le mécréant. C'est-à-dire que le rachat auquel on va donner la vie pour qu'il perde le monde futur est appelé ici un juste accompli. Cependant, le Ritvan n'accepte pas cette interprétation. Comment peut-on l'appeler un juste accompli, se demande-t-il. Une autre question est soulevée par l'enseignement de Rabbi Kruspedaï, selon lequel uniquement les intermédiaires sont jugés à Kippour. Alors que selon la Mishnah et la Baraita citée plus haut, tous les hommes ont leur sentence scellée le jour de Kippour. On peut aussi objecter au Tosafot, la Gemara dans Betsa, à la page 16. Comme il est dit, tous les revenus d'un homme sont fixés à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Une autre version dit de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est-à-dire l'année suivante. La première version peut aussi être comprise pour les intermédiaires, leur jugement étant scellé le jour de Kippour. Ici, a priori, il s'agit bien du jugement concernant ce bas monde. Il serait fixé donc entre Rosh Hashanah et Kippour. De même, la Mishnah précédemment citée nous dit bien que le monde est jugé sur les céréales, les fruits, la pluie, qui sont tous des éléments qui concernent ce bas monde. Et elle associe avec aussi le jugement de l'homme qui a lieu à Rosh Hashanah. Il semble bien que cette Mishnah ne s'accorde pas a priori avec l'avis des Tosafot, qui parlent du monde futur. De plus, les Tosafot eux-mêmes ont parlé d'un jugement concernant ce monde qui serait parfois dur pour les justes et bon pour les méchants. Mais ce jugement, quand aurait-il lieu ? Il semble que l'explication des Tosafot concerne les décrets qui s'appliquent sur les justes dans ce monde à cause de quelques fautes qu'ils auraient faites. Sont décrétés ces jugements comme conséquence de leur inscription dans le livre de la vie pour le monde futur. Et inversement pour les méchants, pour les Rechaim. Alors, comment comprendre qu'on appelle Racha, Gamour, des personnes qui ont majoritairement des fautes. Et à leur sujet, les Tosafot disent qu'on leur paye leur mérite dans ce monde pour qu'ils disparaissent du monde futur. Les maîtres ont dit, il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce monde. Alors comment peut-on payer un rachat, même s'il est rachat, le salaire d'une mitzvot dans ce monde? Une vaste question problématique qui est soulevé, qui pose problème. Le Gaon de Vilna sur Or HaHaim, chapitre 582, dit, écrit, au sujet de l'habitude mentionnée par le Rama, le jour de Rosh Hashanah, nous avons l'habitude de se souhaiter les uns aux autres, bonne année, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova, tikatevou, besefer HaHaim. On ne dit pas inscrit et scellé, mais uniquement inscrit. Car ce qui est dit dans le tribunal, dans le Talmud, au sujet des trois livres qui sont ouverts, il s'agit du jugement concernant le monde futur, comme l'ont expliqué les Tosafot. Mais quand il dit que l'homme est jugé à Rosh Hashanah et son jugement scellé à Yom Kippour, cela s'applique à tous les hommes. Ce jugement concerne le monde matériel et est valable pour tous les individus. C'est-à-dire que selon le Gaon de Vilna, il y a deux niveaux dans le jugement. Il y a un jugement qui est effectué le jour de Rosh Hashanah, uniquement. Puis il y a un autre jugement qui est effectué, qui commence à Rosh Hashanah et qui est scellé à Kippour. Alors celui qui concerne Rosh Hashanah uniquement, il s'agit du monde futur. Savoir à quoi ou à qui appartiens-tu? De quel côté te situes-tu? Alors que par rapport à ce monde ici-bas, le jugement débute à Rosh Hashanah et se conclut à Kippour. Donc il s'agit des éléments matériels et physiques de ce monde. Le Ramchal écrit dans Mahamar HaChokhma, L'homme est jugé d'abord sur ses actes pour être compté parmi les justes ou les impies. Cela est réellement appelé le livre des vivants et le livre des morts. C'est-à-dire que celui qui est compté parmi les justes, alors il est inscrit dans le livre des vivants. L'autre qui est repoussé et qui est compté parmi les impies est inscrit dans le livre des morts. Celui qui est en suspens, Benoni, son jugement se conclut à Yom Kippour. À ce sujet, nous le disons dans la prière, Zochenu lehaim, kotvenu besefer haim. Mentionne-nous pour la vie, écris-nous dans le livre de la vie. Cependant, il y a d'autres décrets sur les événements qui arrivent dans ce monde. Il est possible que le juste souffre ou qu'il prospère, parce qu'il est juste, justement. De fait qu'il est juste, il peut souffrir comme il peut prospérer. Et cela est valable aussi pour celui qui est rachat. Il peut avoir de la réussite ou des souffrances, justement parce qu'il est rachat. Ces décisions sont fixées après le jugement mentionné plus haut. À ce sujet, nous implorons dans la prière, écris-nous pour une bonne vie. Une bonne vie à la fin. Il est dit, Zochenu, kotvenu besefer haim tovim. C'est ça ce qui est rajouté à la fin de la Amida. Le Ramchal fait bien allusion et mentionne bien deux jugements. L'un concernant le monde futur, pour lequel nous demandons la vie sans rien y rajouter. Zochenu lehaim, kotvenu besefer haim. Sans rajout, on ne dit pas tovim là-bas. Et l'autre concernant ce monde qui est dépendant du premier jour et pour lequel nous demandons la qualité de vie. Kotvenu besefer haim tovim. La vie du monde futur est bonne par excellence, alors que la vie ici-bas peut être difficile. La demande pour la première se fait au début de la Amida, aux trois premières bénédictions. Alors que pour la deuxième demande, cela se fait dans les trois dernières bénédictions. Selon cette explication, il n'y a pas de discussion entre l'enseignement de Rabbi Krespedaï et celui de la Mishnah. Celle-ci parle du jugement concernant ce monde. Et Rabbi Krespedaï parle du jugement concernant le monde futur. Mais selon l'explication d'Uran, les deux enseignements semblent a priori opposés. Comment définir le jugement qui concerne le monde futur, Olam Haba ? Comment le comprendre ? Le Zohar, Parashat Pinhas, à la page 231, définit les deux jours de Rosh Hashanah par deux sortes de jugements. Le premier jour, c'est le jour du jugement dur, Dina Kashia. Et le deuxième jour, s'applique le jugement assoupli, Dina Rafia. Le Harizal, Rabbeinu Ha'ari, dans Shaar HaKavanot, à la page 91c, lit les deux jours du jugement avec les deux parties qui composent chaque élément spirituel. L'intériorité et l'extériorité. Le premier jour, on est jugé sur l'intériorité, assimilée aux âmes d'Israël. C'est toute la spiritualité de la personne qui est mise dans la balance. C'est cette partie qui s'élève le premier jour. Le deuxième jour, on est jugé sur l'extériorité qui est assimilée au monde et aux anges qui s'élèvent le deuxième jour. Rabbi Yitzhak Raver, dans son Pitrei Sha'arim à la page 13, explique que l'âme ne peut être ressentie et appréhendée que lorsqu'elle est habitée par un corps. De même, tous les éléments spirituels que nous appelons lumière ne sont accessibles qu'habillés dans un réceptacle que nous appelons Kelim. Ces Kelim sont composés de deux parties. L'intérieur du récipient, du réceptacle, et la partie externe. Le corps humain, lui aussi, est fait de la même manière. La peau, la chair, le squelette, les membres qui accomplissent les actions. Et les éléments intérieurs qui sont la moelle épinière, les nerfs, la structure du système nerveux, qui permet aux membres d'agir et de ressentir les choses. Bien que le système nerveux est l'essentiel, il n'apparaît pas à l'extérieur, il reste caché. Et c'est uniquement par l'action des membres du corps, l'action des organes, qu'on peut le deviner. L'âme est placée dans le cerveau de l'homme, qui est sa résidence. Et elle se répand dans le reste du corps à travers le système nerveux. C'est cette partie du corps qui est appelée l'intérieur du Keli, l'intériorité. La partie extérieure étant plus éloignée de l'âme, elle est à son service, elle accomplit sa volonté. Chaque élément a un avantage que l'autre n'a pas. L'intérieur est supérieur parce qu'il est le donneur d'ordre. Mais l'extérieur a un avantage, c'est qu'il agit. L'homme se définit non pas par son corps, mais par son intériorité, par son âme. Le corps n'en est que le vêtement. Les maîtres ont dit dans Kiddushin, la question est posée, qui est plus grand, l'étude ou l'action ? Rabbi Tarfon répond en disant l'action. Rabbi Akiva répond l'étude. Tous reprirent à l'unisson en disant l'étude est plus grande car elle amène à l'action. La raison est que l'étude est liée à l'intériorité du corps, à l'intellect, alors que l'action est reliée aux membres, à l'extériorité, la partie externe de son corps. Mais le but de l'étude reste l'application. C'est la raison d'être du corps. En étudiant, on ressent, on dévoile le Créateur, alors que la mitzvah reste un acte physique, duquel il est difficile de dévoiler Hachem. C'est pour cela qu'il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde. Une mitzvah sans étude ne permet pas cette élévation. Il est donc impératif de créer une harmonie entre l'étude et l'action. Dans l'introduction au Tikkuné HaZohar, à la page 6, le Zohar oppose ce principe que l'étude est plus grande que l'action, de la mitzvah. À un autre principe, où il est dit la crainte doit précéder le savoir pour se réaliser. L'étude est assimilée à l'amour de Dieu, la crainte étant l'application des mitzvot. Il s'agit d'une étude traditionnelle, du pshat, le sens simple de la Torah. Il faut que la crainte précède l'étude. Mais si on parle de l'étude du secret de la Kabbalah, la compréhension profonde des raisons d'être de la mitzvah, c'est l'étude qui mène à la crainte. Dans un cas, on parle de la crainte de la faute, et dans l'autre, d'une autre sorte de crainte, beaucoup plus élevée, qui est la crainte d'engendrer, quand on prend conscience de la grandeur, de la puissance du puissant, quelque chose qui est négatif. C'est peut-être le sens qu'il faut donner à la vie de Rabbi Tarfon. D'un point de vue de la globalité de la création, l'homme est considéré comme étant l'intériorité et la création en est l'extériorité. Celle-ci n'a été créée que pour être au service de l'homme. Il apparaît donc que la partie extérieure, le keli, est au service de la partie interne, la lumière, le or, l'âme. Bien que cela ne soit pas visible et apparent au premier coup d'œil, il faut avoir l'intelligence de percer les écrans pour atteindre l'essentiel. Le corps et le monde physique ne sont que les serviteurs de l'âme. C'est pour cela que le premier jour de l'année est appelé Rosh, la tête. Il contient en lui tous les éléments qui feront leur apparition au fur et à mesure que l'année s'écoule. Il en est la racine, le noyau. L'année se dit Shana. Le Maharal dit que cela vient de la racine Shinu, changement. Chaque année, le projet divin est différent. C'est-à-dire particulier à l'année qui s'annonce. Le premier jour de cette année contient en lui toutes les lumières qui émaneront pendant les 365 jours de cette année. Ainsi, en ce jour, Hachem fixe les objectifs à atteindre pour l'année. Ce sont des objectifs spirituels qui nécessitent qu'on leur attribue des moyens pour y arriver. C'est le sens du jugement. La raison première d'où tout cela découle, et c'est ce qu'on appelle la Nessira, la séparation de l'homme et de la femme en deux créatures distinctes et autonomes, libres de leurs actions, et qui doivent vivre en harmonie. La Gemara dans Brachot dit, nous enseigne qu'au départ, Hachem a créé Adam et Hava en un seul corps dos à dos. Puis, Hachem a endormi Adam pour en séparer Hava. Cette opération va engendrer la rigueur, le din, le jugement. L'homme symbolisant les bontés et la femme les rigueurs. Tant qu'ils sont liés, les notions sont mélangées, ce qui les empêche d'agir. En les séparant, l'homme va concentrer en lui toutes les bontés et la femme toutes les rigueurs. Ils pourront ainsi les conjuguer pour donner naissance à la miséricorde. L'homme représente la séphira du Tiferet, l'harmonie, représentée par le nom de quatre lettres, Yod-Ké, Vav-Ké, la bonté. Le Saint béni soit-il. La femme, elle, représente la séphira de Malchut, la royauté, représentée par le nom Aleph, Dalet, Nun, Yod. C'est la Shekhina. Cette action de séparation engendre la notion de din, de jugement, car elle donne un cadre et une limite à chaque élément. La notion de limite est en soi une notion de rigueur et de jugement. Le din, le but à atteindre est de créer l'équilibre entre les deux. Il est symbolisé par l'harmonisation des deux noms. Yod Aleph, Ke Dalet, Vav Nun, Ke Yod. La notion masculine est représentée par le nom de quatre lettres, Yod, Ke, Vav, Ke. De quatre lettres développées par le Aleph, comme suit. Yod, Ke, Vav, Ke, qui a pour valeur numérique 45, la même que celle du mot Adam. La notion féminine est inclue à l'intérieur de l'homme. Quand Hava va apparaître, elle va prendre le nom de Hava. Hava a valeur numérique de 19. C'est l'intériorité. 19 et 26, ça fait 45. C'est l'intérieur du 45 qui a pour valeur. Elle est représentée par le nombre de 4 lettres développées par doublon, comme ceci. Yod, Ke, Vav, Ke. En double, ça fait 52. C'est ces deux éléments qui vont se conjuguer pour faire le temps. Le temps, c'est 45 et 52, 97, Zman. Le temps, c'est la vie. Elle apparaît après la séparation de la première séphira qui représente la spiritualité absolue. C'est la raison de la dureté du jugement de ce jour. Il est donc conseillé pour le premier jour de prier pour la réparation de sa neshama, qui est l'essentiel. Et le deuxième jour, sur ses besoins matériels qui seront mis au service du projet divin. À partir du deuxième jour, la séparation va se faire sur les autres sphirot, la structure, le reste de la structure du Malchut, qui sont le développement de la première. Elle lui permet de s'habiller en elle pour pouvoir apparaître. Ce sont les Kelim, alors que la première est la lumière. C'est le sens qu'il faut donner à l'enseignement du Gaon de Vilna, qui a dit que le jugement sur le monde physique commence à Rosh Hashanah et se scelle le jour de Kippour, car la séparation des neuf sphirot restantes se termine ce jour. La Gemara Ta'anit 11a rapporte, nos maîtres ont dit, à l'heure du départ d'une personne de ce monde vers sa demeure, tous ses actes terrestres sont détaillés et lui disent, comme ceci tu as agi, tel jour tu as fait telle chose à tel endroit. Et lui répond oui. Il lui dit signe et il signe. Comme s'il dit, comme il est dit dans Yov, il fera signer de sa main chaque homme. Et non seulement cela, mais encore l'homme approuve le verdict et leur dit, vous m'avez jugé correctement, comme il est dit dans le psaume, afin que tu sois confirmé dans tes dires. Il s'agit ici du jugement après la mort, à la fin concernant le monde futur, en Olamaba. La Gemara Rosh Hashanah rapporte une Braïta au nom de Beit Shammai. Il y a trois groupes le jour du jugement. L'un des justes accomplis, c'est-à-dire Kim Gemorim, l'autre des Rechaim Gemorim, et enfin celui des intermédiaires. Rachid dit, il s'agit du jugement qui s'appliquera lors de la résurrection des morts. Les Tosafot confirment cette explication, puis s'interrogent sur la nécessité d'un nouveau jugement, puisque les hommes ont été déjà jugés au moment de leur mort. Réponse. Certaines âmes pouvaient avoir expié leurs fautes à travers les souffrances endurées au Guéhinam et méritaient de ce fait de jouir de la résurrection, comme le dit le Ramban dans Shahar Gemoul. En résumé, les hommes sont jugés trois fois dans ce monde. À chaque Rosh Hashanah, au moment de la mort, et une troisième fois lors de la résurrection. Si nous sommes jugés chaque année sur le monde futur, comme l'interprétation des Tosafot et du Gaon de Vilna, pourquoi être jugé au moment de la mort? Et si on est jugé au moment de la mort, pourquoi être jugé à la résurrection, comme le soulèvent les maîtres? Le Rahaim HaKadosh, sur le verset dans Bereshit, il est dit, les jours d'Israël approchèrent de leur terme. Le Rav rapporte au nom du Harizal, c'est dans le verset, parle de la fin de la vie de Yaakov Avinu en Égypte. Et il dit que Vaïkrevou Yeme Yaakov Lamout, les jours de Yaakov se rapprochèrent de la mort. Mais nous dit le Rav, comment peut-on dire que les jours se rapprochent de la mort? Ce n'est pas les jours, c'est la personne qui se rapproche de la mort. Alors le Rav rapporte au nom du Rabbeinu Ahari en citant le livre Kehilat Yaakov. Les âmes se divisent en étincelles et à chaque Gilgoul, une partie d'entre elles revient dans ce monde. Selon le nombre de ces étincelles, dépendent les jours de la vie. Les jours où nous avons accompli des mitzvot, des étincelles de ces jours, se réparent. Dit le Rav, nous avons appris de là le secret du sommeil, qui sert à faire retourner à sa source l'étincelle qui correspond au jour qui vient de passer. À la fin de la vie, toutes ces étincelles sont rendues à l'homme pour qu'il soit jugé en fonction de tous les jours de sa vie, qui sont les étincelles qui composaient son âme. Il est donc possible de dire que les étincelles des jours, composées elles-mêmes d'éléments plus petits que sont les instants et les heures, s'intègrent dans un système plus complexe pour former les semaines, les mois et les années. Chaque année est une entité à part entière que l'on pourrait comparer à un collier. Jour après jour, nous enfilons les perles du collier sur lesquelles on sera jugé à Rosh Hashanah. Dans la tradition, nous avons l'habitude de diviser l'heure non pas en 60 minutes, mais en 1080 parcelles, halakim. La raison mentionnée par les kabbalistes est qu'il y a 1080 combinaisons du nom de 4 lettres Yotke Vavke, et à chaque instant, les mondes changent. Chaque instant ne ressemble en rien à celui qui l'a précédé ni à celui qui le suivra. De même pour les heures, et ainsi de suite pour les jours. Comme cela est expliqué longuement dans le Pardes Rimonim, au Shahar 21. En moyenne, l'adulte a 1080 inspirations et expirations en une heure. Il semble que nous avons là l'explication de la vie de Rabbi Yossé de Rabbi Nathan. Est-ce que l'homme est jugé à chaque instant ou à chaque jour? Est-il jugé à chaque parcelle de temps ou à chaque jour pour chaque étincelle? La Gemara Yoma 86 rapporte au nom de Rabbi Shmuel, il y a 4 degrés pour le pardon des fautes. Arba hiloke kapara. Sur les commandements positifs, non appliqués. La tchouva uniquement. Quelqu'un qui a transgressé un commandement positif, il suffit pour être pardonné de faire des tchouvas. Pour les transgressions simples, la tchouva et Yom Kippour. Pour les transgressions graves, dont la sanction est le retranchement ou la peine de mort, teshuva associé à Kippour. Et en plus, il faut les souffrances en ce monde qui les éliminent. La quatrième catégorie, c'est la profanation du nom de Dieu. Il faut ajouter aux précédentes, la mort ne sera pardonnée, Hilul Hashem, que lors de la mort. Ces 4 étapes de la Teshuvah sont à mettre en parallèle avec les 4 niveaux des mondes qui eux-mêmes correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation, la transformation et celui de l'action. Quand l'homme commet une faute, il endommage le monde sur ses 4 niveaux, ainsi qu'aux 4 premiers niveaux de son âme. C'est la raison des 4 sortes de peines capitales, les 4 degrés d'expiation mentionnés dans la Gemara. On peut dire alors que toute faute, quelle que soit sa gravité, contient en elle les 4 éléments de détérioration, plus ou moins soulignés, plus ou moins graves. L'expiation totale de la faute et son effacement complet nécessitent 4 étapes de souffrance. Celle que l'on subit pendant notre vie, dans ce monde physique, n'en est que la première étape. Puis viennent les souffrances dans la tombe, Hibbut HaKever. Deuxième étape, le jugement de l'âme dans le Gehinam. Et la troisième étape, et à l'heure de la résurrection, les hommes seront à nouveau jugés. Le jugement en lui-même étant considéré comme une souffrance. Ainsi, le but de ce processus est la purification totale et absolue pour mériter l'éternité. Il nous reste à définir les livres mentionnés par la Gemara. Les livres sont les midot avec lesquels Hachem a créé le monde. Comme le dit la Mishnah dans Sefer Yetzirah au chapitre 1, la Mishnah 1, que Hachem a créé le monde par le livre. Le livre est la narration, pas Sefer, mais Sefer, ou bien Sipur. Le Gaon sur Sifra de Timothée explique que le premier livre est la pensée première de la création. Le deuxième étant le développement de cette pensée. Et le troisième, c'est la réalisation. C'est l'équilibre du système. Le premier est la bonté absolue qui se dévoile le jour 1 de la création. Le deuxième jour apparaît la rigueur. Elle est à l'opposé de la première. Le troisième jour apparaît l'harmonie qui crée l'équilibre. C'est le livre des intermédiaires ou des gens moyens entre les justes d'un côté et les mécréants de l'autre. Selon le Gaon, il ne s'agit plus de dire que les 3 livres sont distincts les uns des autres et qu'il y a 3 jugements pour 3 catégories d'individus. Les livres sont l'équilibre de la création qui repose sur 3 piliers comme la balance, les 2 plateaux de la balance et le fléau faisant l'équilibre entre le plateau de droite et le plateau de gauche. La bonté est celui de Go, la bonté et celui de gauche, le plateau de droite est la bonté, le plateau de gauche est la rigueur, et le fléau fait l'équilibre. Les trois livres sont associés au jugement, ils s'appliquent ensemble. Le jugement sert à faire la nuance entre le bien et le mal. Les actions positives seront inscrites dans le livre des justes, car la mitzvah est une action de générosité. Les mauvaises actions seront écrites dans le livre des égoïstes, car la rigueur, c'est la rigueur, c'est la notion de réduction, retracissement des conduits, ce qui empêche les influx d'arriver avec abondance. Donc, une partie de nos actions sont inscrites dans le livre de droite, et l'autre partie dans le livre de gauche. Nous sommes donc liés des deux côtés. Ce sont les intermédiaires qui permettent à la création de se perpétuer. Pour cela, nous devons faire tchouva pour éliminer les rigueurs, le jugement des moyens, des bénonymes, se conclut à Kippour pour cette raison. Les sages disent dans les maximes des pères, le monde tient sur trois piliers, sur le jugement, sur la vérité et sur la paix. Al-Shosha Devarim Alam Omed, Kayam, Al-Adin, vers la Emet, vers la Shalom. Le jugement est le jour de Rosh Hashanah où on sépare ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. La vérité est le jour de Kippour, qui nous transformant ou nous transformons le mauvais en bien. C'est la Teshuvah, nous extirpons de nous toutes les parties négatives. Et le Shalom, l'harmonie, c'est la fête de Sukkot qui équilibre le système et perpétue l'existence de ce monde. Ce sont les trois mitzvot que les Bnei Israël doivent accomplir en entrant sur la terre d'Israël. La nomination du roi, la guerre contre Amalek et la construction du temple. La nomination du roi correspond à Rosh Hashanah, c'est le premier pilier. La guerre contre Amalek est le jour de Yom Kippour, c'est le deuxième pilier. La construction du temple correspond à la fête de Sukkot, qui est le troisième pilier, l'harmonie du système. Il concorde, il se conjugue avec les trois livres que l'Éternel a, par lesquels Akadosh Baruch Hu ouvre. Le jugement de Rosh Hashanah, trois livres ouverts, mais c'est aussi les trois livres par lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Yiratzon, que nous soyons inscrits dans le livre de la vie de manière éternelle. Comme nous disons, la vie est en nous, de par le fait qu'Hachem nous a octroyé et nous a accordé la Torah, il a inscrit, il a insufflé en nous la vie éternelle. Et nous devons essentiellement, pendant ce mois, nous préparer à éliminer toutes les parties négatives qui sont en nous, pour que le jour de Rosh Hashanah, nous adhérons de manière totale au livre de la vie, que nous choisissions notre camp. C'est le sens profond du jour de Rosh Hashanah. Tout homme a une partie blanche et une partie noire en lui. Tout homme a d'énormes qualités. Il fait d'énormes mitzvot. Mais il peut faire aussi des fautes. Il a des faiblesses. Il n'existe pas sur terre un homme qui soit parfait. Et nous disent nos maîtres que le dor du Mashiach, quel est le dor du Mashiach? C'est dor chez Kulo Hayav ou Kulo Zakai. La génération du Mashiach, alors ce sera une génération où tout le monde sera tzaddik, Zakai méritant, ou bien tout le monde sera Hayav, tous des Récharim. Et nous disent, Chachamim, que c'est impossible, ça n'existera pas, il restera bien quelque part. Même si le peuple entier, Chas v'Shalom et Racha, il restera bien quelque part. Un homme pieux, un tzaddik quelque part. Donc tous ne peuvent pas être Récharim. Tous ne peuvent pas être Hayavim, tous. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, nous disent les sages, que la génération du Mashiach, les choses seront tranchées. Là, nous sommes bénonim, nous sommes une fois tirés vers le bien, une fois tirés vers l'opposé. Comme nous dit le Zohar, et nos maîtres ramènent ça, le Baal HaTanya ramène ça, et d'autres maîtres ramènent ça dans leur livre, que bénonim, ça veut dire Yetzerara Shoftam et Yetziratov Shoftam, c'est-à-dire qu'ils sont tiraillés. Benoni, il est toujours tiraillé entre le bien et le mal. Il n'arrive pas à totalement éliminer la partie négative qu'il y a en lui. Le jour de la génération de la venue du Mashiach, bien que nous ayons en nous encore des scories, des tentations de faire le mal, mais nous aurons alors choisi notre camp. Nous disons, quelle est la vérité? C'est la Torah Emet, la vraie Torah, la Torah totale. Nous ne sommes pas capables peut-être de l'appliquer, mais nous savons que c'est ça la vérité. C'est à ça ce que nous aspirons. Quelle est la faute? c'est les biens de ce monde, le plaisir de ce monde, les averot, l'égoïsme, etc. Les midot, on sait que c'est ça. Je peux parfois me comporter mal, mais c'est pas ça l'essentiel de ce que je suis. Je choisis mon camp. Le Mashiach ne viendra que dans une génération où les choses seront établies. Où êtes-vous, vous les enfants d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que vous êtes du côté droit ou vous avez choisi l'autre côté? Les choses seront tranchées, la frontière sera délimitée, sera claire. Et bien que nous soyons encore des Benoïm tiraillés de droite à gauche, mais nous saurons d'un point de vue intellectuel quel est l'aspirer, vers quoi nous devons aspirer, vers quelle est la vérité. La vérité sera déclarée. C'est ça le sens de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est déclarer à l'unisson que nous choisissons le parti d'Akadosh Baruch Hu, de le servir. Bien que on sait pertinemment nos faiblesses, malgré tout, nous choisissons d'être à son service. Yiratson, que notre choix soit un bon choix, que nous sachions adhérer au parti de Hakadosh Baruch Hu, d'accomplir la Torah et les mitzvot de manière parfaite. Et de ça, ce choix-là nous donnera la force d'éliminer les tentations et les tiraillements qui viennent de tout ce qui est attaché à ce monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.